au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
J'espère que vous avez passé une excellente journée lundi 26 janvier. Au programme aujourd'hui, Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette. On va parler de l'entente Québec-Canada qui prévoit le versement de milliards de dollars aux municipalités là, pour améliorer les infrastructures. Avec Pierre Paquette, il sera question d'un retour là, sur le congrès d'orientation du Parti québécois en fin de semaine. Ça se tenait du côté de Saint-Hyacinthe. On aura avec nous également Nora Redler, présidente de l'Arche Innovation. Il sera question d'intelligence artificielle. Luc Lafrance sera également avec nous. Il est le président directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus. On va parler du non-respect du signal d'arrêt des autobus scolaires. Nicolas Dufour, maire de Repentigny, il y va d'une sortie contre l'abolition du programme Expérience Québec. Mais tout d'abord, les observateurs politiques qui vont sans doute suivre de près les deux adversaires connus à la course à la chefferie de la CAQ, c'est-à-dire Christine Fréchette et Bernard Drainville. Et il serait surprenant là, qu'un troisième candidat décide d'affronter là, ces deux vedettes de la CAQ. Et François Morin a eu l'occasion d'en discuter un petit peu plus tôt avec notre analyste politique Mathieu Bélanger.
On sait qu'il y a encore des gens qui sont en réflexion et une surprise est toujours possible, tant du côté d'une candidature quand même sérieuse que d'une candidature qu'il l'est moins, finalement, disons-le comme ça. C'est possible, mais effectivement, peu probable. On se dirige vers, du moins dans les faits, là, une course à deux entre Mme Fréchette et M. Drainville. Chacun qui est plus associé à un camp, plus le côté économique pour Mme Fréchette, plus le côté identitaire pour M. Drainville, les deux grandes ailes de la CAQ. Et avec l'espace que ces deux-là peuvent occuper, et l'attraction que ces deux-là peuvent avoir, ben effectivement, ça risque de décourager d'autres personnes de lancer une course à la chefferie. Il serait étonnant qu'une autre personne serait capable de rivaliser avec ces deux-là, considérant les personnes, encore une fois, qui se sont déjà décidées à ce stade-ci.
Madame Fréchette a laissé entendre qu'elle le savait depuis le début janvier. En tout cas, il y avait des doutes. Il y a des gens qui lui avaient parlé de cette possibilité-là. C'est quand même un peu particulier, même si elle se dit surprise que François Legault a pris cette décision-là.
Des fois, on peut être surpris du fait que la décision soit prise cette journée-là, mais qu'on savait que ça s'en venait ces jours-ci. C'est clair que d'autres questions vont lui être posées. Mais on sait aussi que François Legault avait déjà laissé sous-entendre publiquement, lorsque des journalistes lui avaient posé la question, qu'il jugeait que Mme Fréchette pouvait être une bonne successeur à la chefferie de la CAQ. Donc, il semblait avoir, dans les derniers mois, une favori. Est-ce que c'est possible que des gens de son équipe aient laissé savoir Mme Fréchette, ben, commence à te préparer, ça s'en vient? C'est possible. C'est pas si surprenant que ça, c'est un peu inusité, mais pas si surprenant que ça. François Legault, qui a construit son équipe, c'est son parti politique, c'est son bébé. Il a choisi chacune des candidatures pour son parti. C'est très possible qu'il ait voulu, en privé ou indirectement, favoriser la personne qui allait lui succéder également, même s'il dit ne pas vouloir jouer à la belle-mère. Mais néanmoins, il a pu de cette façon-là donner un petit coup de pouce à Mme Fréchette. Cela dit, il faut bien se dire quand même, ça faisait des semaines, des mois qu'on se posait la question à quel point François Legault allait rester ou pas. Infoman en préparation dans l'enregistrement, disons, de l'émission de fin d'année a posé à plusieurs reprises la question à François Legault s'il allait rester ou pas. Donc, en soi, n'importe qui pouvait réfléchir à lui succéder, ben allez, on va pouvoir commencer à avoir fait la réflexion dans le temps des fêtes, même avant.
Et pour ce qui est de Bernard Drainville, il y a quand même une ligne qui sort depuis son annonce officielle. C'est clairement, il y a une grogne, il y a même une colère, et ça, il l'a exprimé, concernant la décision qui a été prise sur le troisième lien. Et là, lui, c'est son cheval de bataille.
Il le dit clairement, et avec l'émotion qu'il avait manifestée lorsque l'annonce de l'abandon du troisième lien, avant de le ramener à la vie par après, l'émotion qu'il avait manifestée à ce moment-là, il pouvait pas faire autre chose aujourd'hui que continuer à dire qu'il est pour le troisième lien. Il est assez sanguin, Bernard Drainville. On sait quelles sont ses positions, il est assez transparent. Il les montre clairement et il en parle avec passion. même si parfois sa passion peut après l'amener à d'autres choses. Évidemment, je fais référence particulièrement ici à la question de la souveraineté du Québec. Il avait défendu avec passion lorsqu'il était un député péquiste et qu'il maintenant, il a d'autres passions, disons. C'est le candidat qui, dans ses discours, pour l'instant, correspond le plus à la continuité de François Legault. Par certaines positions, comme le troisième lien, comme le l'angle plus économique, justement, même si on identifie Bernard Dréville plus à l'angle identitaire, le prix des positions économiques, sur couper la bureaucratie, c'est le mandat d'ailleurs qu'il avait, qu'il avait comme ministre de l'Environnement, de faciliter le travail des entreprises, donc une posture plus de centre-droit. Par sa personnalité, par ses positions, par l'importance qu'il avait au Conseil des ministres et sur la place publique, c'est beaucoup plus le candidat de la continuité pour l'instant. On verra ce qu'il va annoncer pendant la course à la chefferie, mais au moment, sur le fil de départ, le candidat de la continuité. Alors que Mme Fréchette, bien qu'elle était une membre importante du gouvernement caquiste aussi, a beaucoup moins été à l'avant-plan, a été moins longtemps sur la place publique de façon générale, et en ce sens, étant beaucoup moins connue par la population, pourrait, si elle le souhaite, on verra si c'est le cas ou pas, marquer une certaine rupture avec la CAQ. C'est peut-être ça qui va plus distinguer les deux candidats, si tant est qu'ils choisissent d'aller dans ce sens-là. C'est ça qui reste à voir, qui des deux va être capable de marquer une rupture avec l'ère de François Legault.
Une chose est claire, c'est qu'il n'y aura pas de crêpage de chignon. De part et d'autre, on a décidé de signer les bulletins de candidature. Ce sont les débats qui, finalement, vont permettre aux militants de trancher.
La plus grande crainte de François Legault, ce qu'il a annoncé depuis l'annonce de son départ, c'est que la CAQ se divise, que la CAQ soit en chicane, que la CAQ ne soit plus une famille. Le geste que ces candidats le font, de signer le bulletin de candidature de l'autre, démontre qu'on semble vouloir, pour l'instant, à tout le moins, marcher main dans la main. Il est très possible aussi que les deux se disent les chances que peu importe lequel des deux qui remporte la course à la chefferie, mais les chances qu'une telle personne soit capable de mener les troupes à la victoire ou même sauver les meubles pas si pires sont quand même pas élevées dans le contexte de la prochaine campagne électorale. Ben, vaut mieux alors qu'on reste le parti uni pour la suite des choses après la campagne électorale. On va être capable de rebâtir quelque chose. Si en plus le parti se divise entre lui-même, il risque de vraiment plus avoir grand meuble à sauver et ça peut être la mort complètement de la formation politique.
Voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. Je vous rappelle que c'est 15-2, à peu près ça, pour Christine Fréchette, 15 appuis au sein de la députation caquiste contre 2 pour Bernard Drainville pour le moment. Il est 16h14 dans un moment, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour.
Le festival Saint-Côme en glace se déroulera du 31 janvier au 15 février et proposera une programmation pour toute la famille. Au Parc de l'Harmonie, profitez de plusieurs spectacles et d'un atelier d'initiation à la sculpture sur glace offert à différentes dates dans la rue de l'Hôtel de Ville. Parmi les moments forts, la soirée au clair de lune et les contes à la halte à Gérard, la disco des neiges à la patinoire du centre de loisirs Marcel Thériault, la soirée feu et glace avec concours, DJ et feu d'artifice, des activités familiales et même le ski de fond au flambeau au camp Richelieu. Tous les détails sur festivalsaintcombenglace.com.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Nous sommes fiers de faire partie de votre communauté depuis maintenant 5 ans. Merci pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien. Pour célébrer, nous vous offrons 4 changements d'huile gratuits à l'achat d'un Rogue et 2 changements d'huile gratuits à l'achat d'une Sentra, d'un Kicks ou d'un Kicks Play. Chez Joliette Nissan, ce qui compte le plus, c'est vous. Merci de rouler avec nous depuis 5 ans et pour les années à venir.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les 3 jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Didas-des-Panneurs-des-Lacs. à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu. CFNJ.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
16h16, le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, y va d'une sortie contre l'abolition du programme Expérience Québec là, qui visait à faciliter l'intégration des immigrants. Selon Nicolas Dufour, sa ville est victime de cette décision parce qu'elle fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal et Régent Turgeon a eu l'occasion de le rencontrer.
Monsieur Nicolas Dufour, maire de Repentigny, il y a beaucoup de questions ces temps-ci du programme de l'Expérience québécoise dans le domaine de l'immigration. Quelle lecture faites-vous là de ce programme-là, vous?
Ben, à vrai dire, c'est un peu l'étonnement quant à l'annonce de la fin du programme de la part du gouvernement du Québec, parce que c'est le même gouvernement qui l'a lancé au début de son premier mandat. Quelques années plus tard, décide de tout chambarder en matière d'immigration. Puis c'est un peu le problème qu'on a depuis les 30 dernières années en matière de gestion de l'immigration. J'ai été député à Ottawa de 2008 à 2011, puis à l'époque, on avait déjà les mêmes problématiques. Chaque nouveau gouvernement se met les mains dans le dossier de l'immigration, fait le programme à sa couleur, mais quelqu'un qui décide de prendre, qui décide d'immigrer au Canada, c'est un choix de vie, ça va prendre des années. Alors, si à chaque 2 ans, 3 ans, on change bout pour bout les programmes en matière d'immigration, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient dur pour les gens de s'y retrouver. Ça devient dur pour les gens de pouvoir venir contribuer à la société canadienne.
Avec la fin de ce programme-là, est-ce qu'on peut sentir de l'inquiétude à Repentigny? Parce que le visage démographique de la ville a changé beaucoup, là.
Oui, on a une inquiétude parce que le gouvernement du Québec parle beaucoup de la régionalisation de l'immigration. J'en suis. Maintenant, la ville de Repentigny est considérée dans la communauté métropolitaine de Montréal, la fameuse CMM. Alors, on vit la restriction de l'immigration comme le vit Montréal. Pourtant, Repentigny, ses défis sont propres. Je rencontre régulièrement des citoyens de Repentigny qui sont des gens qui viennent de la France, qui viennent d'Europe, qui viennent des pays du Maghreb ou de l'Afrique, qui sont très bien intégrés au Québec, qui parlent pleinement français, qui ont des emplois ici, mais qui malheureusement, à cause des changements de réglementation puis des changements du programme, puis notamment la fermeture du PEC, ben là, ils sont dans les limbes de l'immigration puis ils savent pas s'ils vont pouvoir continuer à résider sur le territoire, ils vont pouvoir continuer à travailler puis à bâtir la société canadienne avec nous. Alors, c'est très inquiétant.
Ça peut avoir des conséquences pour les employeurs locaux. Risque de pénurie de main-d'œuvre à certains égards.
Ouais, totalement. Puis souvent, quand on parle de l'immigration puis l'adéquation avec la main-d'œuvre, des gens démagogues pourraient dire que c'est parce que les entreprises veulent, désolé l'anglicisme, mais du cheap labor. Alors que ce n'est pas du tout le cas dans bien des domaines. Il y a des entreprises à Repentigny qui ont des besoins en matière de spécificité d'emploi, de main-d'œuvre qualifiée qui sont pas capables de retrouver dans le bassin de main-d'œuvre actuel qu'on a. Alors, ils doivent se retourner vers l'étranger pour faire venir des travailleurs. Mais on a aussi, quand je prends les travailleurs temporaires, avec le PEC, pas plus tard que durant la COVID, c'est notre propre gouvernement du Québec, celui qui a créé le PEC, qui a appelé partout sur la planète des milliers de gens à se déraciner pour venir travailler dans nos hôpitaux, s'occuper de nos aînés en CHSLD. Puis aujourd'hui, c'est le même gouvernement qui dit à ces gens-là, on n'a plus besoin de vous parce que vous rentrez pas dans les critères puis dans les catégories de type d'emploi qu'on a de besoin. C'est tout simplement dégueulasse.
Est-ce qu'on n'envoie pas en même temps le message que le Québec n'est plus une terre d'accueil?
C'est exactement le message qu'on envoie.
Vous appelez à un dialogue constructif avec le gouvernement du Québec. C'est possible dans le présent contexte avec un M. Legault qui s'en va, pas d'élection avant cet automne, des ministres qui doivent se désister parce qu'ils sont dans une course au leadership. À qui on va parler?
Ben, en partant, il y a deux candidats à la course à la chefferie, dont Mme Christine Fréchette, qui elle-même a fondé le programme PECT. Alors, j'espère qu'elle va se rendre compte de la bonne idée qu'elle a eue à l'époque de créer le programme PECT. Puis j'espère qu'elle va travailler à essayer de trouver une solution pour répondre aux gens qui sont laissés dans les limbes, gens que le gouvernement du Québec a fait venir. Encore il y a quelques mois, quelques années à peine, le gouvernement du Québec faisait des missions à l'étranger pour attirer des gens, pour aujourd'hui leur dire que la porte est fermée. Alors, j'espère que la course à la chefferie qui s'organise à la CAQ permettra d'avoir un peu plus de vision sur ce dossier.
M. Dufault, vous prêchez la défense d'une immigration que l'on veut responsable, équilibrée et profondément humaine. C'est un cri du cœur que vous lancez au final.
Ouais, puis ça date pas d'hier. Hein. Je le redis là, ça fait à peu près plus d'une trentaine d'années là qu'on joue avec les programmes en immigration sans véritable vision, puis sans entente entre tous les partis. C'est un dossier qu'on pourrait très bien travailler de façon transpartisane pour trouver une voie de passage, puis un modèle d'immigration qui va nous permettre de mettre des bases solides pour attirer des nouvelles personnes tout en respectant notre capacité de limite d'accueil. Là, je pense qu'il est temps que tous les parlementaires, autant à Québec qu'à Ottawa, s'assoient ensemble pour mettre en place des vrais programmes d'immigration, puis qu'on arrête d'y aller aux aléas là, de la politique partisane.
C'était le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, avec qui Régent Turgeon s'est entretenu un petit peu plus tôt, là, Nicolas Dufour, qui est en beau fusil là, contre l'abolition du programme Expérience Québec.
Lanaudière PM, transport.
La Fédération des transporteurs par autobus est préoccupée par la hausse généralisée au Québec du nombre de constats d'infraction émis dans les dernières années pour le non-respect du signal d'arrêt d'un autobus scolaire. Ça, c'est la base qu'on apprend là, quand on apprend à conduire au niveau des règles. Respecter l'arrêt obligatoire à l'arrière d'un autobus scolaire, et on constate une augmentation de 15% du nombre d'infractions en 4 ans au Québec, phénomène qui est observable également dans Lanaudière, et François Morin s'est entretenu avec le PDG de la Fédération, Luc Lafrance.
Alors, M. Luc Lafrance, la Fédération des transporteurs par autobus publie aujourd'hui un palmarès des régions concernant la sécurité routière en présence justement d'autobus scolaires. On constate que Lanaudière se retrouve au 12e rang de ce palmarès, mais c'est pas ce qui est le plus rassurant.
Ben non, effectivement, mais si on regarde l'ensemble de la province non plus, c'est pas rassurant, où il y a une augmentation au cours des 4 dernières années, 15% du nombre d'infractions reliées au non-respect du bras d'arrêt des autobus scolaires. Donc, faut y accorder une attention.
Pour illustrer la chose, la statistique comme telle, là, on parle d'un taux d'accident ou de se conformer là à la réglementation de combien dans la région?
Ici, dans votre région, on parle d'un Lanaudière, on parle de dans un petit peu, on parle de 10,35 sur 100 000 habitants, donc c'est toute proportion gardée par rapport au nombre de la population. C'est sûr que vous vous classez au 12e rang sur la liste des régions, mais comme je disais tout à l'heure, il faut le regarder aussi dans son ensemble et s'apercevoir que faut continuer à marteler le même message, respecter les feux clignotants. Ces données-là qu'on voit, c'est un peu la pointe du iceberg, je dirais, parce que c'est ceux qui, les contrevenants qui ont été interpellés par les policiers. Il y en a beaucoup plus que ça. Si on se fie aux commentaires qu'on reçoit des conducteurs d'autobus qui, de façon quotidienne, rapportent qu'il y a des automobilistes qui n'ont pas respecté le bras d'arrêt sans nécessairement avoir été interceptés par la police.
Et ce qui est inquiétant, c'est que ce sont les plus jeunes conducteurs qui sont plutôt délinquants.
Ça aussi, c'est très surprenant et désolant encore une fois. C'est la strate d'âge, c'est 25% de ceux-là, c'est des gens entre 25 et 44 ans. Donc, des parents potentiels d'élèves du primaire et du début secondaire, des élèves qui sont probablement transportés par l'autobus scolaire, ou c'est des parents qui vont reconduire leur enfant à l'école et qui sont pressés de retourner à la maison ou retourner au travail. Donc, je pense qu'il y a un message important à part. Cette strate d'âge-là d'automobilistes.
Le message est quand même martelé depuis plusieurs années déjà. Il y a eu des campagnes de sensibilisation à la télé avec des images quand même, c'est le cas de le dire, frappantes. Comment ça se fait que le message ne passe pas?
Est-ce que c'est une question d'insouciance, question de distraction avec les textos, avec les cellulaires, avec les écrans à bord des automobiles? On peut se poser bien des questions. Mais force est de constater qu'effectivement, on a beau être rendu à notre 38e année de campagne de sécurité. Il faut continuer à rappeler le message parce que les gens ont tendance à l'oublier.
C'est sûr qu'on dit toujours que c'est quand on joue dans le portefeuille des contrevenants que le message finit par passer. Est-ce qu'on en est rendu à demander là au gouvernement une hausse des amendes, des constats d'infraction au niveau du code de sécurité routière?
Ben, c'est déjà assez élevé. On parle de 300$ en termes monétaires, mais on parle surtout de 9 points de démérite, ce qui fait encore plus mal à l'automobiliste. Là, je pense que c'est une des infractions dont les points de démérite sont les plus élevés. Est-ce que ça permettrait, est-ce que les gens, d'augmenter le 300$ à 500$ ou je sais pas quoi, ferait en sorte que les gens seraient plus vigilants, si on peut se poser la question. Je pense qu'il faut continuer à marteler le message au niveau de la prévention. Il faut aussi peut-être intervenir plus souvent auprès des autobus.
On constate dans le communiqué que vous avez émis que le ministre actuel des Transports, Jonathan Julien, appuie votre démarche, mais est-ce qu'on peut aller plus loin?
Ben, il y a des projets qui sont lancés, des projets pilotes qui sont lancés. Il y a des études qui se sont faites du côté de Transport Canada, il y en a d'autres du côté de Transport Québec. On parle d'un bras d'arrêt qui est extensionnable, qui bloque la route complètement. Il y a des projets de caméras à installer sur les autobus pour un peu comme les photos radars pour prendre en flagrant délit les automobilistes qui ne respectent pas le bras d'arrêt. Il y a différentes études et analyses qui se font actuellement. Est-ce que ça viendra à éventuellement devenir un équipement standard sur les autobus? Ça, c'est à suivre.
Parce qu'évidemment, peut-être pour conclure, c'est qu'on peut pas mettre un policier à tous les coins de rue où il y a des autobus scolaires. Alors, évidemment, il faut prendre d'autres moyens là pour réussir, si on veut, à attraper tous les contrevenants.
Tout à fait, oui.
Voilà, c'était le président, directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec, Luc Lafrance. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour l'échangeur en joue à peine un peu dense entre Henri Bourassa et le pont d'étagement du CN. Pour la suite des choses, ça va bien pour franchir Charles de Gaulle, Repentigny, 40 Est, c'est facile. Pont Le Gardeur, accès assez simple par Notre-Dame et Sherbrooke du côté de Montréal. 25 Nord, c'est dense depuis un petit peu après le boulevard Lévesque là, du côté de Laval et ce jusqu'à environ 500 mètres passé. La jonction avec la 440. Terrebonne, 25 Nord, ouais, un petit peu dense l'approche du boulevard des Seigneurs. Sinon, ça va bien dans Mascouche également. Pont Sophie-Masson, c'est un petit peu dense à l'approche. La traversée est quand même pas si mal. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, ça va bien. Direction ouest, c'est un peu dense là, à l'approche de la montée du Mai également, secteur de la 25 là, où c'est assez lourd. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Les matchs du Tricolore, c'est à l'échappée que ça se passe. Chaque soir de match, choisis ton joueur favori et s'il marque un but, tu te mérites un shot gratuit. Lors d'un match en semaine, on prolonge notre 4 à 7 jusqu'à 20 heures. Les jeudis, c'est la soirée hockey avec DJ, tirage d'un chandail du CH présenté par la BAT et pique assiette gourmand. Rate pas ça! Réservation fortement suggérée au 450-394-1658.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. La toute nouvelle Nissan Leaf 2026 est arrivée en concession. Avec son tout nouveau design et possédant une grande autonomie, elle vous convaincra certainement de prendre le virage vert. Venez l'essayer en concession ou commander la vôtre pour bénéficier d'un taux d'intérêt à 0% à la location et un rabais pouvant aller jusqu'à 3 000. N'attendez plus. Passe en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour faire un essai routier. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 principal à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
L'actualité de ce lundi 26 janvier en manchette. Les routes sont dangereuses. Un drame fait deux morts à Manawan et des milliers de locataires n'arrivent pas à payer à chaque mois. Mais tout d'abord, Pierre Jubinville, malgré que la neige est sur le point de se terminer, là, les conditions routières demeurent quand même hasardeuses.
Ouais, parce qu'il fait froid, il vente un peu, donc c'est un mauvais cocktail. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs carambolages, deux ici dans la région. Le premier à l'Assomption, vers 11h, sur la 40 en direction est, il y a eu 10 véhicules impliqués et une personne a été blessée légèrement. Un peu plus tard, vers 13h, l'autoroute 40, toujours en direction ouest, a été fermée au kilomètre 119 à la Valtrie. Et la chaussée partout, faut être prudent quand même parce qu'elle est glacée.
Deux morts suspectes à Manawan.
On en sait un peu plus sur ce drame qui s'est produit en fin d'après-midi hier, alors que deux personnes ont été découvertes sans vie dans une résidence. La SQ confirme qu'il s'agit d'un homme de 44 ans et d'une femme de 39 ans. Elle refuse pour l'heure d'indiquer les circonstances exactes des décès, mais elle indique qu'ils sont survenus dans un contexte conjugal.
On peut comprendre que la communauté de Manawan est actuellement sous le choc, là.
En effet.
On a d'ailleurs fermé les écoles aujourd'hui.
Ouais.
Des locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer.
Un locataire sur cinq éprouve de la difficulté à payer son loyer au Québec. C'est une vaste étude qui a été réalisée par Léger. C'est encore pire dans la région de Montréal. La situation ne tend pas à s'améliorer. On écoute Philippe Bonneville.
La situation des locataires québécois se détériore de plus en plus, selon cette étude de la firme Léger qui a sondé 5500 répondants. Ainsi, 21% des locataires dans la province, soit 700 000 personnes, ont eu de la difficulté à payer leur loyer à au moins une occasion lors de la dernière année. Adam Mongrain de l'organisme Vivre en Ville qui a commandé l'étude.
Donc, ils ont eu besoin de retarder leur paiement de loyer, d'emprunter de l'argent à la banque ou d'emprunter de l'argent à des amis.
Pour Montréal, c'est encore plus préoccupant. Le quart des locataires s'étant retrouvé dans cette situation. Un constat alarmant, affirme Vanessa Normand, directrice générale adjointe de Vivre en Ville.
Les données qui sont rendues publiques aujourd'hui sont essentielles pour bien saisir l'ampleur du problème et orienter des solutions les plus efficaces.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelle, Montréal.
Transport maintenant, Exo qui coupe encore 19 millions de dollars.
Oui, 11% de ses effectifs au cours de la prochaine année, ce qui va se traduire par 73 postes. Exo avait déjà annoncé le report de plusieurs projets comme la construction de garages. Exo dessert, entre autres, plusieurs municipalités de la Couronne Nord, à Repentigny, Terrebonne et Mascouche. Le directeur général, Marc Rousseau, assure que l'objectif est toujours de ne pas réduire les services directs aux citoyens.
On n'est pas à parler de réduction d'offres de services. Si on veut réussir à retrouver l'équilibre financier à l'horizon 2028, là, c'est clair qu'on n'aura pas le choix de trouver des solutions pour maintenir l'offre de services actuellement. Donc, ça passe soit par du financement additionnel, soit par des ajustements de l'offre de services.
Et finalement, aux États-Unis, frustration et inquiétude à Minneapolis.
Oui, deux jours après la mort du manifestant anti-ICE, l'escouade d'immigration américaine, les gens continuent de venir se recueillir devant un mémorial improvisé. Notre envoyé spécial à Minneapolis, Annie Guillemette, a rencontré plusieurs citoyens frustrés et désemparés.
Les résidents de Minneapolis ont connu la mort de George Floyd, celle de Renee Nicole Good et samedi, Alex Petrie est tombé sous les balles de policiers. À chaque fois, les citoyens se sont regroupés, selon cet homme, mais là, c'en est trop.
We always come together in times like this, but we're tired of coming together in times like this as well.
Plusieurs de ceux qui se présentent au mémorial improvisé sur les lieux affirment être frustrés et parlent de quasi-immunité des agents fédéraux qui pourraient tuer et faire disparaître la scène en quelques minutes à peine.
Somebody will come back and clean up the scene, and it'll be business as usual in 15 minutes.
Mais il y a aussi des citoyens comme cette conservatrice évangéliste qui a carrément changé d'opinion.
This is enough. So at some point in life you have to take a stand.
Les témoignages se déroulent sous les yeux de la police locale qui se fait toutefois extrêmement discrète. Annie Guillemette, Cogeco Nouvelle à Minneapolis.
Je retiens le témoignage de cette chrétienne évangéliste là, de droite, donc à la base pro-Trump, là, qui est en train
très,
de changer.
Très pro-Trump.
Ouais, et revire son chapeau de bord maintenant.
C'est peut-être un
ouais.
signe.
Mm-hmm. Merci, bonne Pierre.
Soirée. Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. Lanaudière PM. Technologie.
Ouais, l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Dans 10 ans, on dit que l'IA pourrait même remplacer les médecins, puis des enseignants. Et Michel Arnois en parle avec Noah Redler. Il est président d'Arche Innovation, un spécialiste qui intervient auprès des organisations municipales de taille moyenne au Québec. On écoute l'entretien.
Vous avez commencé à toucher à l'intelligence artificielle il y a 15 ans. Ça ressemblait à quoi, ça, il y a 15 ans?
Mais c'était vraiment plus un projet de recherche, mais on voyait déjà qu'il y avait les bases d'intelligence artificielle et la capture de données dans différents outils opérationnels qu'on voyait. Et c'était beaucoup plus pour des cas spécifiques. Alors, on voyait qu'il y avait beaucoup des caméras avec de l'intelligence artificielle intégrées là-dedans pour mieux analyser une image ou pour...
La reconnaissance faciale, par exemple.
C'est elle, par exemple, l'analyse des sources d'eau, par exemple. Alors, c'était des choses qu'on était capable de faire avec nos téléphones intelligents et les caméras. Alors, ça nous permet de vraiment commencer à prototyper et d'explorer différentes thèmes de l'intelligence artificielle.
Ça va tellement vite, l'intelligence artificielle. Actuellement, c'est déjà intégré dans plusieurs outils. Donnez-nous des exemples concrets.
Mais si vous utilisez Microsoft en ligne, SharePoint ou Google Drive, vous voyez déjà qu'il y a des pubs pour utiliser Copilot ou Gemini. Mais là aussi, de plus en plus, des outils de comptabilité, des outils, des plateformes opérationnelles pour la production dans les usines proposent une fonctionnalité de l'IA générative. Alors, comme le ChatGPT, la capacité de communiquer directement avec votre plateforme.
Même, par exemple, nos correcteurs automatiques, c'est de l'intelligence artificielle.
Ben exactement. Quand vous travaillez dans vos courriels et ça vous propose une phrase, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors, on se trouve un peu caché en arrière-scène de plusieurs différentes technologies, surtout nos médias sociaux et les applications sur nos téléphones.
Dans 10 ans, l'intelligence artificielle pourrait remplacer les médecins, les enseignants. Et plus près de nous, dans ce que je fais, il y a même des radiodiffuseurs au Québec qui, déjà, font des bulletins de nouvelles avec l'intelligence artificielle la nuit. Ce qui fait peur aux gens aussi, c'est d'être remplacé par l'intelligence artificielle, non?
Ben oui, je pense que c'est une vraie peur et c'est une peur que nous avons vue à travers chaque évolution technologique qui s'est passée dans le qui s'est déjà arrivée. Même quand on parlait de la robotisation dans les années 90 et début 2000, on disait que ça va remplacer tous les travailleurs dans l'usine, mais ce n'est pas encore arrivé. Je pense que ça va ouvrir d'autres opportunités et ce qui nous fait peur, c'est que les tâches pour lesquelles on prend pour acquis les tâches dans notre zone de confort, nos carrières existantes vont devenir un peu dépassées avant la fin de notre carrière. Alors, ça nous demande encore de changer nos habitudes, d'apprendre à nouveau et de développer des compétences qui vont nous aider à un peu vivre et opérer dans le marché de demain. Alors, est-ce que ça va remplacer nos emplois? Les emplois existants, et si on prend l'exemple d'un médecin, la façon qu'un médecin travaille, c'est vraiment facultatif et c'est vraiment quelque chose qui est bien cadré. Il y a un problème, un symptôme, et il y a une solution. Voici c'est quoi le résultat, comment on devrait agir, comment on devrait soutenir cette symptôme. Mais pour les choses qui prennent plus d'ouverture, d'échanges qui nous demandent d'avoir plus d'agilité dans nos pensées, c'est difficile pour les ordinateurs à nous remplacer.
Donc, faut pas avoir peur. C'est ce que vous nous dites. C'est un peu le message que vous passez.
Ben, moi, je ne suis pas peur, personnellement, mais je pense que c'est juste que si vous résistez, c'est épeurant. Et ça va vous causer des problèmes dans le futur. Alors, le plus que vous distanciez de ces technologies, le plus que vous devrez avoir peur.
On est donc plus près que jamais de la fameuse société de loisirs dont on parlait dans les années 80-90.
Ouais. Ben, je pense que ça va ouvrir beaucoup de temps, mais après ça, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi l'économie de cette loisir? Comment est-ce qu'on va, si on travaille moins, comment est-ce qu'on va gagner autant d'argent pour avoir autant de plaisir? Alors, je pense que il y a des questions plus économiques et sociales qui vont venir nous chercher les capacités de trouver assez de temps pour... générer plus assez de temps libre pour être capable de vraiment avoir une vie de loisir.
En terminant, deux derniers éléments. Quel est le plus grand danger de l'intelligence artificielle et quel est aussi le plus grand défi?
Le plus grand danger d'intelligence artificielle, c'est que dans la pluralité de façons où ça peut être utilisé pour manipuler du monde. Vous avez parlé de que peut-être l'IA va prendre le rôle des animateurs sur la radio, mais je suis plus proche des deepfakes qui nous appellent pour faire des fraudes, qui vont peut-être avoir des capacités de convaincre des gens qui ont le contrôle sur des missiles, par exemple, donner des fausses ordres aux militaires, et d'éventuellement peut-être être utilisé comme un outil de déconstruction des individus. Alors, je pense...
Des informations aussi.
Excuse-moi, des informations des individus, pour les individus. Alors, c'est dans, comme toutes les innovations, c'est dans la façon qu'on l'utilise qui devient... Et les façons qu'on peut utiliser pour... à déranger du monde, c'est ça.
Finalement, au bout du compte, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie.
Oui, exactement. Le PFH, putain de facteur humain. Et après ça, le plus grand défi, c'est que ça s'intègre dans notre monde. L'IA reste un logiciel, c'est sur nos laptops, c'est sur nos ordinateurs, mais pour que ça prenne de l'ampleur, ça va nécessiter d'avoir des bras et des jambes et un corps physique pour vraiment mieux comprendre notre monde physique. Alors, le défi, c'est que ce n'est pas encore intégré, bien intégré dans notre monde, et l'IA nécessite des technologies complémentaires. Alors, avant qu'on peut tout adopter, mais ça prend des sensors et des capteurs et des clouds, et etc. Alors, les technologies émergentes nécessitent toujours d'autres technologies pour complémenter ses fonctionnalités.
Intéressant et inquiétant à la fois, c'était Noah Redler, le président d'Arch Innovation. Il était question d'intelligence artificielle. Laissez-moi vous dire que la crainte principale aussi, ce sont les dérapes possibles de l'intelligence artificielle. Et là, on le voit sur les réseaux sociaux. Et Michel Arnoy abordait le sujet de la radio. Il y a des stations de radio qui ont commencé à utiliser de faux lecteurs de nouvelles là, en intelligence artificielle. Et ça aussi, ça peut déraper. Sachez qu'à CFNJ, on s'est penché là-dessus. On a réfléchi à tout ça. Puis on a dit que non, la radio, c'est humain. Et l'information à CFNJ, c'est humain. Dans un moment, on parle à un vrai humain, Pierre Paquette.
Après les fêtes, vos cartes sont pleines? CFNJ vous propose une carte pleine pas mal plus payante avec son Super Radio Bingo. Et jusqu'au 11 février, vous avez deux fois plus de chances de gagner. En plus des bingos du dimanche matin à 10h05, avec 5 000 $ à gagner avec les trois jeux, pour un temps limité, CFNJ vous offre ses bingos spéciaux avec carte pleine à 5 000 $ tous les mercredis à 19h30. Il y a des cartes pleines qui sont plus agréables que d'autres. Où se procurer vos cartes du Super Radio Bingo? La liste des dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Profitez de la liquidation sur un Kicks Play S 2025 avec des rabais jusqu'à 1 000 $ en financement et un taux à partir de 0%. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps.
comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler
qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bon lundi, Pierre.
Oui, bon lundi. Un peu enneigé, pas mal.
Ouais, on est en plein dedans. Pierre, retour sur le congrès d'orientation du Parti québécois qui se tenait en fin de semaine du côté de Saint-Hyacinthe. Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est clairement attaqué à Mark Carney devant des militants qui étaient gonflés à bloc.
Ben oui, mais je sais pas si Mark Carney a fait exprès jeudi de faire un discours qui a donné des munitions à Paul Saint-Pierre Plamondon, à Blanchette, à tous les orateurs à ce congrès d'orientation. Mais c'était extrêmement maladroit, quelques jours avant le congrès d'orientation du PQ, de faire des déclarations comme il l'a fait en disant que le Canada, la collaboration entre les francophones et les anglophones, est née sur les plaines d'Abraham.
Mais non, c'est plutôt l'inverse, là.
Exactement. Il parlait d'adaptation, de partenariat, de collaboration, plutôt que d'assimilation, de domination et de division, alors que c'est plutôt l'inverse qui est la réalité. Alors là, il a vraiment donné des munitions aux souverainistes au cours de cette fin de semaine-ci, puis ça a galvanisé les troupes, là. J'ai eu l'occasion de voir ça dans des clips, là. Vraiment, les discours étaient extrêmement nationalistes, puis comme le disait Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un peu le début de la campagne référendaire.
Ouais, mais justement, parlons-en de ce fichu référendum, parce que le PQ est pris avec ce point 1 de son programme politique, et selon le plus récent sondage Palace Data, il y a 35% des Québécois, seulement 35% qui sont en faveur de la souveraineté. Et est-ce que tu penses pas que Paul Saint-Pierre Plamondon, au lieu de s'attaquer à celui qui est, selon lui, là, le chef de la campagne du non, le futur chef de la campagne du non, là, devrait plutôt y aller de façon constructive pour vendre l'idée de la souveraineté aux Québécois?
Ah ben ça c'est sûr, mais je pense que comme je mentionnais, là, il y a eu comme un cadeau qui a été fait par Carney au péquistes en fin de semaine. Il faudrait pas qu'il table strictement là-dessus, oui, parce que il y a des gens qui commencent à trouver qu'il y a beaucoup d'agressivité dans son contenu et que ça manque peut-être un peu de propositions concrètes. Alors moi, je pense que c'était conjoncturel, là, parce que vraiment les événements de la semaine précédente s'y prêtaient, mais il faudra effectivement que le ton soit plus constructif et qu'on démontre davantage. Malgré que, en fin de semaine, il y avait quand même le dévoilement de la quatrième partie du livre bleu, là, qui est un peu les propositions, en fait, les idées qui vont être mises de l'avant par le Parti québécois pendant la campagne référendaire. Et là-dedans, il y avait des choses assez nouvelles, là. Moi, j'ai quand même participé activement au congrès au référendum de 95. Mm-hmm. Il y avait des nouvelles choses. Par exemple, l'idée que les francophones du reste du Canada pourraient avoir la citoyenneté québécoise si eux et leurs enfants ont étudié en français. Ça, c'est nouveau, puis je pense que ça tend des ponts vers les communautés franco-canadiennes.
Les Acadiens, par exemple?
Oui, les Acadiens, puis il y a beaucoup de... Au Nouveau-Brunswick, il y a aussi ils ont un terme, là, je me rappelle
les
pas.
Les Braillons?
Les Braillons, exactement.
Dans c'est le ça. Nord?
Oui, puis eux, ils sont très proches. Dans le fond, la frontière a été dessinée là, mais elle aurait dû être dessinée ailleurs, mm-hmm. parce que c'est des Québécois qui se retrouvent au Nouveau-Brunswick. Oh, ça, oui. Je trouvais que c'était une idée qui est constructive, parce que ça tend la main à des communautés francophones ailleurs, à travers l'Amérique du Nord. Alors ça, c'était bon.
Mais c'est certain, Pierre, que lors d'un congrès comme celui du week-end, c'est facile de parler de souveraineté pour Paul Saint-Pierre Plamondon à des militants qui sont déjà convaincus. Mais là, reste à convaincre la population québécoise. Et quand on regarde, bon, les chiffres des sondages, c'est pas évident. On disait que chez les jeunes, ça va. Oui, ça va, malgré qu'ils sont pas majoritairement en faveur de la souveraineté. Mais bon, on parle de 40% des 18-34 ans là, qui sont vendus à l'idée de la souveraineté, mais il en reste quand même 45% qui sont contre.
Ah, ça, c'est évident. Et puis, comme je le mentionnais, en fin de semaine, Paul Saint-Pierre-Plamondon puis les leaders souverainistes s'adressaient à des souverainistes, mais il va falloir qu'ils soient capables aussi de s'adresser à toute la population, particulièrement les francophones qui devraient être l'appui à cette idée d'indépendance. Alors, je suis d'accord avec toi que c'était peut-être une fin de semaine très agréable pour eux, mais que la dure réalité va les rattraper. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la serviette. Et je pense qu'il serait très malvenu que Paul Saint-Pierre Plamondon puis le Parti québécois laisse tomber cette idée de tenir un référendum dans le cadre d'un premier mandat avant les élections, parce que ça fait partie de leur discours depuis plusieurs mois. S'ils laissaient tomber ça, là, parce que les sondages sont pas bons, ça donnerait l'impression d'être opportuniste et puis ça rappellerait peut-être la CAQ et puis ça ferait de mauvais souvenirs. Tu sais,
Peut-être l'époque de Jean-François Lisée où en fait il faut penser au fait que Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois ont remonté dans les sondages justement depuis qu'ils ont ramené l'option de l'indépendance là, et de parler de référendum là, dans le discours populaire. Là.
Oui, exactement. Puis il faut pas qu'ils laissent tomber ça. Maintenant, arrivé la veille du déclenchement possible d'un référendum, si on est encore dans des sondages de ce niveau-là, il sera toujours temps de revoir la stratégie. Mais je pense qu'à ce moment-ci, il faut pas jeter la serviette, puis il faut prendre les moyens de convaincre la population québécoise du bien fondé projet de l'indépendance.
Il faut surveiller de près aussi, je pense, le discours qui est tenu par les partis, par exemple, dans cette course à la chefferie, que ce soit au Parti libéral ou celle à la CAQ. Christine Fréchette qui l'a dit en fin de semaine, c'est pas le temps de faire un référendum, c'est la pire période en 50 ans pour faire un référendum.
Ben ça, si on a toujours dit ça, ça sera toujours la pire période pour faire un référendum. Non, moi, je pense que là, Mme Fréchette, qui est une ancienne, mais en fait, je l'ai connue, elle était souverainiste. Elle a travaillé même dans des cabinets dans un gouvernement du Parti québécois. Elle connaît bien ce milieu-là. Je pense qu'elle essaie de se démarquer de Bernard Drinville, qui, lui, va avoir un problème. Là, c'est qu'un ancien ministre péquiste qui se présente au leadership de la CAQ, je pense que pour beaucoup de fédéralistes qui sont membres de la CAQ, ça passera pas. Alors, je pense que Mme Fréchette, elle fait une opération actuellement d'amadouer ou d'attirer ces gens-là. Je crois pas qu'il y a c'est pas une personne qui va être à tout prix contre l'indépendance, mais c'est sûr que, comme il y a une bonne partie des caquistes qui sont fédéralistes, mais elle n'a pas le choix. Là, la troisième voie, c'est ça. Tu vas des deux côtés à la fois, tu parles en même temps d'une chose et de son contraire.
Alors, Pierre Paquette, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps dont on dispose et on va se reparler au cours de la semaine. Là. Merci.
Oui, mercredi, on se reparle.
Oui, okay, bye-bye.
Merci, bye.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Ouais, l'entente Québec-Canada qui prévoit le versement de milliards de dollars aux municipalités pour améliorer les infrastructures n'est pas une panacée là à tous les maux en raison justement là, des coûts qui sont élevés et liés à leur mise à niveau. Et c'est ce que croit le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui François Morin s'est entretenu.
Le problème, ce sont les délais. On sait que ça fait déjà plus d'un an que l'annonce avait été quand même faite. Donc, c'est une annonce qui est étalée aussi, une entente qui est étalée sur 10 ans. Puis là, on parle là, pour l'instant de 20 % du total, donc autour de 190 millions de dollars là, qui sont sur la table. Mais il reste encore d'autres modalités administratives là, à ficeler. On nous dit que ça serait d'ici le printemps. Donc, c'est encore des délais. Alors, quand on va être vraiment en mesure de toucher à cet argent-là, vous l'avez dit, les chantiers explosent au fil des ans, puis les villes et municipalités se sont lancées un peu tout en même temps dans ce processus-là, parce qu'on sait qu'on doit assurer la réfection de nos infrastructures. Dans le cas de Joliette, je le répète souvent, mais d'ici 20 ans, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, il faut s'assurer de toucher cet argent-là avant que les chantiers explosent encore davantage.
Hein. Pour ce qui est de Joliette comme tel, on a déjà parlé là qu'il y a certains projets qui ont quand même été réalisés via la loi 31, mais on peut pas tous réaliser ces projets-là via justement les dispositions de la loi 31. Est-ce qu'on a d'autres chantiers qui sont sur la table qui attendent justement du financement, en fait, pour installer des infrastructures?
Oui, il y en a d'autres, mais comme vous dites, au-delà de la construction de ces logements-là, ben, il faut aussi penser à nos infrastructures qui vont être en mesure de desservir nos nouveaux citoyens. Puis ça a un impact, que ce soit au niveau routier, au niveau des nouvelles écoles aussi qui sont à construire avec la densification. Il faut s'assurer d'avoir de l'eau potable en quantité. Donc, il y a d'autres enjeux qui entourent la construction de logements qui viennent avec des coûts aussi assez importants. C'est pour ça que l'aide va être bienvenue. Déjà qu'on avait coupé, je pense notamment là dans le quartier Sainte-Thérèse, on voulait assurer des travaux. Ben là, on a eu une coupure là, de 3 millions de dollars dans le programme Primo. Donc, on a une orientation gouvernementale de densification. Mais les investissements ne viennent pas avec, c'est pas en adéquation avec ce qu'on nous demande de faire. Donc, on se retrouve avec des villes de plus en plus congestionnées, puis avec des infrastructures désuètes. Dans le cas de Joliette, on a des infrastructures qui datent de 100 ans. Donc, au-delà de la construction de logements, ben ça vient aussi avec d'autres services, d'autres besoins là, qui doivent être comblés. Là.
C'est un premier pas dans la bonne direction, mais clairement, on n'aura pas les moyens de toutes nos ambitions.
Non, puis je le répète, ce sont les délais aussi qui nous inquiètent parce que ça fait quand même plus d'un an là, qu'il y a des discussions pour en arriver à cette entente-là. Il y a encore des modalités administratives à ficeler. Donc, les délais vont être importants aussi parce que pendant ce temps-là, ben l'inflation continue là à augmenter, les coûts continuent à exploser et puis il y a de plus en plus de travaux un peu partout dans les villes et municipalités. Donc, parfois, on a moins de soumissionnaires, donc encore là, des coûts plus élevés. On a vraiment là des enjeux, là, des pressions importantes sur le budget municipal. Moi, depuis que je suis en poste, on a fait quand même là, plusieurs chantiers de réfection d'infrastructures. Puis, bon an, mal an, un chantier, c'est autour de 15 millions. Donc, c'est une partie importante du budget là, qui s'en va du côté de la ville de Joliette dans la réfection des infrastructures. Puis, au niveau du logement, vous l'avez dit, il y a eu quelques projets avec 31. Il y a d'autres projets actuellement qui sont sur la table, puis on essaie aussi autant que faire se peut, que ce soit des projets harmonieux là, pour pas mener défigurer non plus le cadre là, de la ville de Joliette, puis que ce soit aussi intéressant pour les citoyens. Puis je parlais de la circulation, je pense que c'est un enjeu de plus en plus important. On veut pas se retrouver non plus là, avec une situation semblable à Montréal là. On veut que les gens là, vivent en harmonie, qu'ils puissent profiter encore là, du cadre là, intéressant de la ville de Joliette. Donc il y a tout ça aussi qui vient en ligne de compte. Dans les projets importants, on a Joviol à l'entrée de la ville, là, côté d'Arthur B, qui va s'adresser là, à des gens semi-retraités. Là. C'est plus de 260 logements de ce côté-là. Donc, on essaie d'aller de l'avant avec différents projets, mais on doit aussi voir l'impact là, sur nos infrastructures là, souterraines notamment.
En terminant, et j'avoue que j'ai péché par omission, l'enveloppe, moi j'ai toujours entendu parler avec l'UMQ d'une enveloppe qui dormait là, de 8 milliards, c'est pas ce qui a été annoncé.
Ben moi, ma compréhension, c'est vraiment là le milliard qui avait été déjà discuté l'an dernier. Il y a eu des pourparlers parce que, bon, vous savez, le Québec est le seul au Canada à ne pas pouvoir transiger, les villes ne peuvent pas transiger directement avec le gouvernement fédéral. Donc, c'est pour cette raison-là que le gouvernement du Québec arrive là, dans l'équation. Donc, on est la dernière province au Canada à s'entendre avec le gouvernement fédéral. Donc, je le répète, c'est étalé sur 10 ans. Il y a 20% du total qui est déjà sur la table, donc 190 millions. Puis là, par la suite, il va y avoir d'autres modalités administratives à ficeler. Puis on nous a dit que ça serait au printemps, là, selon Mme Guilbeault, là, qui est ministre des Affaires municipales. Mais on est loin là, des montants nécessaires, là, des montants établis selon différentes études ou constats. Là.
C'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt. Il est 16h59. C'est le temps de saluer et remercier nos collaborateurs. Mathieu Bélanger, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, Michel Arnois, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prudence sur les routes. On sera là, nous, demain à 16h pour un autre rendez-vous de Lanaudière PM. Et manquez pas dans un instant de l'autre côté de l'actualité de 17h, le 5 à 7 trad avec Nicolas Bellemare. Bonne soirée, à demain.